Les temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail.
Merci patron.
Avec Philippe Saunier.
Bonjour, dans cette chronique des temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail, j'ai intitulé cette semaine mon sujet fantasme, stigmatisation et incitation à la violence. Vous allez comprendre pourquoi. Ça se passe dans un petit village de notre région, à Verfeil-sur-Seille, dans le Tarn-et-Garonne. Un drôle de zèbre a eu l'idée de peindre en rose la nuit les quatre obus qui délimitent le monument aux morts de la guerre 14-18. Ça a été tout de suite le scandale. On aurait profané le monument aux morts. Le préfet en personne se déplace et donne de l'importance à l'événement. Le journal La Dépêche et aussi Le Petit Journal en rajoutent, parlent d'implication de l'ultra-gauche. La Dépêche titre sur un saccage qui n'existe pas en réalité. J'ai regardé la définition du mot saccage dans les différents dictionnaires. Il est marqué « piller ». Détruire et rendre inutilisable. Donc, c'est pas un saccage. Il n'est pas précisé, c'est particulièrement important dans les articles de presse, que la stèle n'a pas été visée, elle n'a pas été touchée, mais seulement les obus placés sur le pourtour. Alors, pourquoi du rose? Pourquoi le peintre a-t-il utilisé du rose? Alors, je ne le connais pas, le peintre. Je suppose que soit il avait que ça dans son stock, soit il a choisi la couleur de l'amour pour pouvoir contrarier cette présence des obus. Selon que l'on considère ou pas, tout est là, que les obus sont indissociables du devoir de mémoire envers nos morts, l'analyse va être radicalement différente. Pendant très longtemps, on a fait un amalgame dans la mémoire entre les morts et la célébration de la guerre 14-18. On a cautionné cette guerre sans s'interroger sur le pourquoi de cette immense boucherie. C'est bien avec cette conception ancienne maintenant, heureusement ça a évolué depuis, qu'on a utilisé à l'époque des obus français pour faire un périmètre. Pas question dans ces stèles, dans ces périmètres, de diffuser un quelconque message de paix. C'est différent pour la Seconde Guerre mondiale. On a pourtant bombardé davantage en 39-45 qu'en 14-18. Mais on n'a pas eu l'idée, et c'est heureux, d'utiliser des obus autour des monuments en mémoire des victimes. Alors aujourd'hui, on parle davantage des vrais mobiles de cette Première Guerre mondiale, de cette gigantesque boucherie qu'elle a engendrée. Il y a eu 1,3 million de militaires morts pour la France, selon la formule consacrée, je ne dis pas de Français, puisque beaucoup d'entre eux étaient des indigènes des colonies. Au plan international, cette Première Guerre mondiale a fait 18 millions de morts. Une guerre voulue entre impérialistes pour leurs pouvoirs respectifs. L'offensive du général Nivelle, le 16 avril 2017, illustre le carnage. Je le cite pour exemple. Entre 30 000 et 40 000 morts du côté français, dont beaucoup de tirailleurs sénégalais. Pour se faire une idée du carnage de cette offensive du 16 avril, j'ai recherché pour faire une comparaison avec le jour du débarquement de la Seconde Guerre mondiale, le 6 juin 1944. Ce débarquement a fait 10 000 morts chez les Alliés, donc à peu près 3 à 4 fois moins. La Seconde Guerre mondiale va faire effectivement davantage de victimes, 45 millions, juste à peu près le double de celle de la Première Guerre mondiale. Par contre, sa différence essentielle, c'est que les morts seront majoritairement des civils. Pour ce qui est des militaires référencés morts pour la France lors de la Seconde Guerre mondiale, ils sont au nombre de 217 000. On peut en conclure, et on le sait quand on regarde un peu de près, que pour des familles du Tarn-et-Garonne, elles ont été bien davantage touchées avec davantage de décès en 14-18 qu'en 39-45. Si le peintre en question avait voulu s'en prendre à la mémoire des victimes, il aurait touché à la stèle, ce qu'il n'a absolument pas fait, et donc la conclusion me semble évidente. Avant d'aller plus loin, je vous propose une chanson de circonstance, une chanson de Boris Vian, Marchand de canons.
J'ai vendu du mouron, mais ça n'a pas marché. J'ai vendu des cravates, les gens étaient fauchés. J'ai vendu des ciseaux et des lames de rasoir, des peignes en corzo, des limes et des hachoirs. J'ai essayé les fraises, j'ai tâté du muguet, j'ai rempaillé des chaises, réparé des bidets. Je tirais ma charrette sur le mauvais pavé. J'allais perdre la tête, mais j'ai enfin trouvé. Je roule en Cadillac dans les rues de Paris depuis que j'ai compris la vie. J'ai un petit hôtel, trois domestiques et un chauffeur, et les flics me saluent comme un des leurs. Je vends des canons, des courts et des longs, des grands et des petits, j'en ai à tous les prix. Il y a toujours amateurs pour ces délicats instruments. Je suis marchand de canons, venez me voir pour vos enfants. Canons à vendre. Avec votre ferraille, on forge ces engins qui foutront la pagaille parmi ceux du voisin. Ça donne de l'ouvrage à tous les ouvriers, et chacun envisage de fonder un foyer. Pour se faire des finances, on fabrique des lardons, on touche l'assurance et les allocations. Ça n'a pas d'importance, car lorsqu'ils seront grands, ils iront en cadence crever pour quelques francs. Je vendais des canons dans les rues de la terre, mais mon commerce a trop marché. J'ai fait faire des affaires à tous les fabricants de cimetières, mais moi maintenant je me retrouve à pied. Tous mes bons clients sont morts en chantant, et seul dans la vie je vais sans souci. Au coin des vieilles rues, le cœur content, le pied léger, je danse la carmagnole, y a plus personne sur le pavé. Canon en solde.
Pour compléter et habiller le spectre de l'ultra-gauche qui serait présente aux alentours de Verfeil, on a le droit à peu près tout. On a monté en épingle des graffitis réalisés dans les toilettes de la pétanque du village. Des graffitis certes moches, certes assez incompréhensibles, certes lamentables, comme on en voit un peu partout dans les différentes toilettes publiques de France. Mais en tout cas, sans aucun message politique, ni aucune forme d'appel à la haine ou à la violence. Mais on n'est pas assez prêt pour construire finalement une ultra-gauche qui n'existe pas. Et voilà nos fins limiers qui ont découvert une nouvelle preuve de sa présence. Je propose donc que quand vous verrez ce genre de graffiti dans une toilette publique, que vous appeliez directement et aussitôt, bien sûr, le préfet du département pour qu'il vienne constater personnellement. Voilà donc comment on fabrique de toutes pièces l'existence d'un fief d'individus dangereux sans absolument rien de sérieux. J'oubliais que, et c'est dans la presse locale également, la présence d'un drapeau palestinien aux fenêtres comme un prétendu stigmate de cette présence de l'ultra-gauche, ce qui est pourtant tout à l'honneur de ceux qui ont accroché ce drapeau alors qu'un véritable génocide est en cours à Gaza. Il faudrait que l'on nous dise que quand les jeunes de Verfeil, par contre, organisent un convoi humanitaire pour l'Ukraine, de quel ultra-quoi il serait. On voit que c'est délirant, mais aussi nauséabond. Ce qui est inquiétant, c'est que nos autorités participent à cette stigmatisation, à désigner donc une population coupable, sans trop savoir de quoi elle serait coupable, mais si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Pour l'occasion, on a fait appel à plusieurs maires des villages environnants pour être sur la photo avec le préfet devant ce monument soi-disant saccagé. On voit d'ailleurs sur la photo qu'il ne l'est pas. Il y a maintenant un an, la brigade antiterroriste, un service spécialisé dans le domaine basé à Paris et à Toulouse, a déployé pas moins de 70 hommes cagoulés et lourdement armés pour arrêter deux jeunes suspects d'avoir participé à une manif contre la pollution de la cimenterie Lafarge dans les Bouches-du-Rhône. Ils seront relâchés après une longue garde à vue sans aucune charge. Alors j'ai regardé pourquoi mobiliser 70 hommes de la brigade antiterroriste avec les mitraillettes, les cagoules, etc. J'ai regardé pour faire une comparaison. J'ai retrouvé l'arrestation de Messrine. À l'époque, on avait utilisé la moitié de cet effectif. La construction de la rumeur en marche, comme dirait l'autre, depuis cette époque. Et puis, maintenant, il n'y a plus qu'à alimenter, même si c'est n'importe quoi. Alors, quel est le village de Verfeil ? Verfeil-sur-Seille est un village que je connais. Il est d'un peu moins de 500 habitants, dont la moitié habite dans le bourg, où il y a une jeunesse qui aspire à une société meilleure, mais c'est peut-être là le grief, qui pour beaucoup se déplace pour voter lors des élections politiques. Le taux de participation aux dernières élections politiques à Verfeil était de 82% contre 66% pour la moyenne nationale. La jeunesse s'implique dans l'animation du village, on peut dire qu'elle l'a fait revivre. Il y a des définitions très variables de ce qui serait l'ultra-gauche, mais on peut retenir une constante dans les définitions, c'est le rejet des institutions et des élections, soit tout le contraire de ce qu'on peut constater à Verfeil. Il n'y a dans ce village aucune probabilité que vous soyez détroussé ou égorgé dans les rues. Qu'à cela ne tienne, le préfet vient de dire que pour Verfeil, la pose de caméras de surveillance pourrait être une bonne solution. On est en plein délire, à moins qu'il s'agisse d'une campagne savamment orchestrée pour désigner des adversaires. À quand une expédition punitive, une ratonnade dans les rues de Verfeil, de la part de ceux qui ne veulent voir comme responsables de leur malheur que des coupables qu'on va leur désigner sur un plateau. Est-ce que j'exagère ? L'idée d'une expédition punitive a déjà été évoquée lors d'une réunion à la Chambre d'agriculture il y a environ 2 mois. Le préfet était présent, il n'a pas cru bon d'y mettre un holà. À 2 reprises ces jours-ci, une voiture a traversé le village avec des menaces physiques hurlées par la vitre. Voilà donc comment on fabrique de la haine, de la division, pour des raisons de basse politique. Voilà ce que je voulais vous dire cette semaine et à bientôt.
Les temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail de Philippe Saunier, à retrouver en podcast sur cfmradio.fr, rubrique CFM Cueillus.
Le public de jardin de ma tante.
Oh, c'est pas
vrai. Ah bah si. Et mon patron, il change de costume 2 fois par jour.